Chapitre 27. Ils avaient contre eux le vent et la marée, et malgré leurs efforts, le bateau n'avançait guère. Mary, dans son inquiétude, s'était levée pour juger de la distance qu'ils avaient parcourue, mais les bateliers lui avaient crié de s'asseoir, et reprenant sa place avec la docilité d'un enfant, elle avait concentré en elle-même l'impatience qui dévorait son cœur. Cependant, il lui sembla tout à coup les voir quitter la direction qu'il fallait suivre, et sous l'impression d'un affreux cauchemar, elle ne put s'empêcher d'exprimer sa terreur. Les deux hommes lui répondirent en grommelant qu'ils savaient mieux qu'elle ce qu'ils avaient à faire, et appelant un de leurs camarades à leur aide, ils lui demandèrent de venir se mettre au gouvernail afin qu'ils puissent réunir leurs efforts et avancer plus vite. Ils ramaient depuis longtemps, et Liverpool semblait toujours aussi près qu'au départ. Mary ne comprenait pas que le découragement ne s'emparât point des bateliers. Elle n'avait plus ni force ni pensée, lorsque le vent, qui jusque-là avait été contre eux, se calma subitement. De légers nuages se groupèrent, couvrirent le ciel d'un voile et assombrirent l'eau du fleuve. Pas le moindre souffle dans l'air. Et pourtant, le froid était plus vif que par le vent d'ouest, qui tout à l'heure soufflait avec violence. Le bateau bondissait à chaque coup de rame, et rien ne semblait annoncer qu'il avançât dans sa course. Mary tremblait et se sentait défaillir. Le timonier montra dans la rivière une ligne qu'on distinguait au loin et qui formait une ride à la surface de l'eau. Les bateliers se tournèrent du côté de la jeune fille, dont la douleur et la patience finissaient par les toucher. « Là-bas, lui dit l'un d'eux, voyez-vous le John Cropper, le second navire en regardant vers le nord. Le vent est bon maintenant, et les voiles que nous allons hisser vont doubler notre vitesse. » Il oubliait de lui dire que la brise en s'élevant ne favorisait pas moins la marche de John Cropper que celle de leur esquif. Et tandis que les yeux fixés sur le vaisseau qu'on lui avait montré, Mary dévorait du regard la distance décroissante qui la séparait de Will. Les voiles du navire se déployèrent, s'arrondirent au souffle du vent d'est et le John Cropper s'inclina pour se relever et bondir comme impatient de quitter le rivage. Ils ont levé l'ancre, s'écria le timonier, en entendant la voix des matelots dont le cri d'adieu glissait en mourant à la surface du fleuve. Mais puisant de nouvelles forces dans l'entraînement de la poursuite, les rameurs imprimèrent plus d'élan à leur course rapide et ajoutèrent une autre voile à celle qui déjà faisait craquer la mâture. Nouveau cri de l'équipage, plus fort, plus distinct. La barque approche, mais le navire est parti. Mary, les bras tendus, les joues baignées de larmes, implorait ce vaisseau qui emportait son espoir, tandis que les bateliers criaient en agitant leurs rames et tâchaient d'attirer l'attention des matelots. On les voyait à bord, mais la manœuvre était trop importante, le désordre trop grand pour qu'on leur répondît. Les cordages au repli, toujours prêts à se détendre, y menaçaient la vie des hommes. Sur le pont encombré, couraient les matelots préoccupés des adieux qu'ils venaient de faire et se pressaient, au milieu des moutons et des porcs non encore dépecés, de pauvres animaux fous de terreur dont les mugissements et les plaintes se mêlaient au bruit confus qui s'élevait autour d'eux. Le capitaine lui-même, songeant avec douleur à sa femme, à ses enfants qu'il laissait au rivage, donnait ses ordres d'une voix impatiente et trahissait par son irritation la souffrance que lui causait le départ. Il traversait le pont avec colère, furieux d'une méprise du contremaître qui retardait la manœuvre, quand il crut entendre qu'on hélait son navire et qu'on l'appelait de ce méchant petit bateau qui s'efforçait de le rejoindre. « Capitaine ! » criaient les mariniers. « Nous demandons William Wilson pour prouver un alibi aux assises de Liverpool. On juge demain James Wilson, accusé d'un meurtre qui s'est commis jeudi soir, comme il était avec son cousin Will. Dites-leur que je suis Mary Burton, et le vaisseau qui s'éloigne, oh mon Dieu, faites-le donc arrêter !» Le vaisseau fuyait toujours, entraînant la barque à sa poursuite. Les bateliers répétèrent leur message. Mais le capitaine, renvoyant le nom de la jeune fille accompagné d'insultes et d'effroyables jurons, signifia qu'il ne s'arrêterait pas et ne se déférait d'aucun de ses hommes, quel que fût le misérable qui dût être pendu. Mais lui, en entendant ces paroles que le porte-voix faisait retentir, leva les yeux au ciel et, retombant, assise, au pied du mât, inclina la tête et se couvrit la figure de ses mains. Cependant, une voix a crié du navire. Elle comprime les battements de son cœur pour écouter ce qui va suivre. Mary Burton, disait Will. Je reviendrai dans le bateau du pilote. Que Dieu me protège, et il sera encore temps de sauver l'innocent. Que dit-il ? Demanda-t-elle au batelier, car les mots avaient frappé son oreille, mais leur sens échappait à son esprit. Quand on le lui eut répété, elle ne sut pas davantage ce que cela voulait dire. Ils le lui expliquèrent. Elle les comprit à peine. « Et jusqu'où va le pilote ?»«
C'est suivant, lui dirent-ils. Quelquefois jusqu'à Holyhead, pour avoir la chance de rencontrer un vaisseau qui s'en revient et de le ramener au port. Il y en a d'autres qui ne vont que passer les sables. Ça dépend du capitaine et du pilote aussi.
Quand reviendra celui de John Cropper ?»
Il y avait trois bateliers, trois avis différents qui varièrent de 12 à 36 heures, et comme la discussion s'échauffait, celui qui avait parlé d'un jour et demi doubla bientôt le terme qu'il avait fixé, ajoutant même que le pilote pourrait bien ne pas revenir avant la fin de la semaine. Mary essayait vainement de les comprendre. Leur argot lui était inconnu, et un nuage enveloppait sa pensée. La stupeur s'emparait d'elle, et tout semblait s'harmoniser avec son désespoir. Le ciel de plomb, qui se reflétait dans la rivière, l'eau assombrie, la rive plate et nue, le vent âpre et piquant dont elle était transpercée. La barque, dont les voiles avaient été repliées, revenait lentement à Liverpool. Mary n'entendait plus les bateliers qui discutaient toujours la question du pilote. Le bruit cadencé des rames, le balancement du bateau, la fatigue qui l'accablait depuis plusieurs jours avaient fini par triompher de sa douleur. Un instant, elle entr'ouvrit les yeux, réveillée par un léger mouvement qu'on faisait auprès d'elle. C'était le plus vieux des bateliers qui la couvrait de sa vareuse, dont il se dépouillait afin qu'elle eût moins froid. Mais avant qu'elle eût fait un effort pour le remercier de cette attention, elle retomba profondément endormie sur le monceau de voiles et de cordages qui lui servait de couchette. Il commençait à faire nuit lorsque les bateliers arrivèrent à l'escale d'où ils étaient partis. Ils réveillèrent Mary et l'aidèrent à se lever. « Où allez-vous maintenant ? » lui demanda celui qui avait pris soin d'elle. « Je vais vous dire votre chemin. » Elle tourna les yeux vers le marinier sans lui répondre, tira machinalement sa bourse, dont elle versa le contenu dans la main du bonhomme, et détacha son châle pour le lui donner, comme elle l'avait promis.
« Non, non, gardez-le, » répondit le batelier. « C'était seulement pour voir et pour vous éprouver, parce qu'on en trouve qui disent comme ça qu'ils n'ont plus rien quand ils sont cousus d'or. Mais où vous rendez-vous » ajouta-t-il d'un ton brusque. « Je vous l'ai déjà demandé. »
« Je ne sais pas, » répliqua-t-elle avec une complète indifférence.
« Il faut bien que vous le sachiez, » reprit-il aigrement. « La jetée n'est pas la place d'une jolie fille, surtout à l'heure qu'il est. »«
J'ai sur moi, » dit-elle, « une carte où l'adresse est écrite. »
Et rassuré sur son compte, le batelier sauta dans son bateau et s'éloigna de la rive pour faire place à un steamer qui s'approchait de l'escale. Mary plongea de nouveau la main dans ses poches, en retira un à un tous les objets qu'elle y avait, son mouchoir, sa bourse vide. Quelques riens sans valeur. Mais la carte ne s'y trouvait pas. Celle de Mr. Bridgenorth, chez qui elle aurait dû être à 2 heures avec Job. Elle l'avait perdue, sans le savoir au moment où, dans son empressement à faire partir les bateliers, elle avait pris sa bourse et compté son argent. Son désespoir était si grand et complet qu'il ne s'augmenta pas de cette nouvelle déception. Elle essayait de se rappeler le nom de Mr. Jones, mais le nom de cette femme, sa rue, son numéro, elle avait tout oublié. Elle s'assit tranquillement sur les marches de l'escale et fixa les yeux sur la rivière qui s'agitait à ses pieds. Une ou deux fois, elle se demanda si elle ne trouverait pas le repos au fond de cette eau glacée. Mais elle était trop faible pour s'attacher à une idée quelconque et demeurait immobile, sans se douter des insultes qu'on lui jetait en passant. Le vieux batelier la suivait toujours du regard et ne pouvait, en dépit de lui-même, s'empêcher de s'intéresser à elle. Dès qu'il put se frayer un passage au milieu des bateaux amarrés près de la rive, il attacha sa barque et, remontant sur la jetée, en sautant d'une planche à l'autre, il revint près de la jeune fille, tout en se traitant de vieux fou.
« Que le diable vous emporte !» lui dit-il, en la secouant par les bras. « Qu'est-ce que vous faites ici, le bec dans l'eau comme une oie ? Je vous ai déjà demandé où il faut vous conduire. »«
Je ne sais pas, » répondit-elle en soupirant.
« Assez comme ça, et pas d'histoire. Où est cette carte ? Où se trouvait votre adresse ? Un compte que vous m'avez fait là. »« J'en avais une, mais je l'ai perdue. » Et ses yeux se fixèrent de nouveau sur la rivière.
Le batelier, debout à côté d'elle, tâchait d'étouffer la voix qui lui parlait au cœur, et, ne pouvant y parvenir, il prit une seconde fois l'épaule de la jeune fille qu'il secoua violemment.
« Que me voulez-vous ? »
demanda Mary, qui l'avait presque oublié.
« Allons, venez avec moi et que le diable !»
Elle se leva et le suivit comme un enfant, sans lui demander où il la conduisait.